Bonjour Amandine Nianguenon.
Bonjour.
L'opération Barkhane est lancée. Les forces françaises sont repositionnées dans 5 pays de la région sahélienne pour une meilleure réactivité face à la menace terroriste. Ce dispositif est-il novateur ?
Oui, je pense que c'est un dispositif qui est novateur au-delà d'être nouveau, étant donné qu'il prend en compte en fait un certain nombre de réalités aujourd'hui dans cette bande sahélo-saharienne, la BSS comme on l'appelle, à la fois la nécessité de répondre à des menaces qui sont essentiellement transnationales et également la nécessité d'avoir des points d'appui qui en fait reprennent les anciennes bases françaises et les réadaptent complètement pour pouvoir justement faire face à ces défis-là.
Mais avec 3000 soldats, la France déploie-t-elle assez de moyens par rapport à la menace ?
Le problème, c'est que sur un espace aussi vaste que la bande sahélo-saharienne, il n'y aura jamais assez de soldats. Je pense que c'est plutôt le fait d'être présent, de bien connaître le terrain qui fera la différence, plus que de déployer des soldats dans un chiffre considérable pour lequel, de toute manière, la France n'a pas les moyens budgétaires.
Y a-t-il des bases juridiques au redéploiement de l'armée française au-delà des accords donnés par les chefs d'État africains concernés ?
Oui, les accords dans la bande sahélo-saharienne, les accords juridiques, ce sont les accords de coopération et les accords de défense. D'un point de vue assez simple, l'accord de coopération définit les modalités, les formalités de la présence des forces françaises ou du transit des forces françaises dans ces différents pays. Aujourd'hui, la clause d'automaticité d'intervention de la France en cas d'agression extérieure qui était dans les accords de défense depuis les années 60 a complètement disparu. Donc maintenant, aujourd'hui, la limite entre accords de défense et de coopération, elle est finalement très ténue, étant donné que dans la plupart des pays où il y a des accords de défense, il y a aussi de la coopération. D'ailleurs, on parle dans le cas de la Côte d'Ivoire d'un partenariat de défense bien plus qu'un accord de défense. Donc les bases juridiques, ce sont ces accords qui sont signés. On a aujourd'hui 8 accords de défense et 16 accords de coopération. Donc vous voyez que la France a vraiment déjà un dispositif à la fois juridique et politique qui est très verrouillé.
Mais avec ce dispositif Barkhane, la France ne s'est-elle pas encore plus liée les mains avec des régimes parfois autoritaires ?
Non, je crois pas qu'elle se lie les mains. Je crois qu'elle essaye surtout justement de donner une dimension juridique à ses actions. En tout cas, il y a cette volonté d'essayer de poser un cadre, qui est un cadre sur la durée. L'accord sert à ça. Maintenant, une fois de plus, la réactivité et la nécessité d'intervenir dans des conditions qui sont parfois, je dirais, un peu à la marge, comme le montre le cas du Mali, n'empêche pas, du moment qu'il y a un accord d'entente entre les deux parties, de pouvoir intervenir.
L'opération Barkhane est-elle appelée à s'inscrire dans la durée, d'après vous ?
Je pense que de fait, elle va s'inscrire dans la durée. Pour le moment, personne dans la bande sahélo-saharienne ne fait de lutte contre le terrorisme comme la France peut et sait le faire. Donc même si on peut en tout cas annoncer que le dispositif est un dispositif qui n'a pas vocation à être permanent, il le sera de fait. Il n'y a pas d'armée africaine qui est aujourd'hui capable de le faire. On est déjà en train d'essayer de voir comment elles peuvent répondre à des menaces qui sont des menaces, je dirais, beaucoup plus basiques. D'essayer de gérer les groupes armés. Donc comment voulez-vous qu'elles prennent en charge toute cette question du renseignement et de lutte contre les groupes djihadistes et terroristes ?
Oui, cette prise en charge par la France de la lutte contre le djihadisme illustre en creux l'absence de politique africaine de défense commune ?
Oui, il illustre dans la matérialisation, parce que dans la volonté, les derniers sommets ont vraiment montré cette volonté des pays africains de renforcer les capacités de leurs armées, d'avoir une action régionalisée contre les menaces. Mais à côté de ça, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce qui limite l'action des États, c'est pas seulement la volonté, c'est aussi la question des capacités. On ne peut pas se cacher constamment derrière des discours sans véritablement avoir les moyens opérationnels de pouvoir agir sur le terrain.
La lutte contre le terrorisme au Sahel pourrait-elle se faire sans les États-Unis ?
Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle puisse se faire sans les États-Unis parce que, une fois de plus, si on réinscrit ça dans un contexte plus général qui est finalement le manque de moyens de la part de l'armée française et puis toute la nécessité aujourd'hui d'agir de manière commune, je dirais que les deux parties sont gagnantes parce que les États-Unis ont besoin de la connaissance du terrain qu'ont les Français. Maintenant, ils ont des moyens logistiques que la France n'a pas et ils veulent la question du terrorisme et du contre-terrorisme est central dans la politique américaine.
Est-ce une façon, ce dispositif Barkhane, est-ce une façon pour la France de sanctuariser son prix carré africain ?
Non, je pense qu'il faut sortir de ces logiques-là. Je pense que politiquement et financièrement, ça coûte très cher à la France. Donc c'est pas une volonté de sanctuariser. Je pense qu'elle, une fois de plus, elle est dans une brèche où personne ne veut s'insérer. Et pour le moment, tant que d'autres acteurs ne prennent pas le relais, elle sera là pour faire cette continuité en attendant de passer le relais à quelqu'un d'autre.
Merci Amandine Nguenon.
Merci.